suis croisé Porte et Fenêtre. Moi, je suis à moitié du Doubs et à moitié du Béarn. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait connaître le Pays Basque? Ben, c'est toute mon enfance où on n'a pas arrêté avec mon père, ma mère, puisque ma grand-mère est à Jurançon et que mon père affectionne beaucoup l'océan. On n'arrêtait pas de faire des allers-retours dans les Landes où j'ai de la famille encore actuellement. Donc, à Messan, j'ai vu beaucoup. J'ai ma tante, ma cousine qui travaille à la mairie de Vieux-Boucau d'ailleurs, plus le Pays Basque. Donc on descendait souvent et on se retrouvait entre la barre et puis la plage de Tarnos. Puisque mon père aimait vraiment, en pleine saison touristique, se retrouver sur une plage dans la région où il n'y avait personne. Et Tarnos, du fait que ce soit l'embouchure de Bayonne aussi, je pense qu'il y a un peu moins de personnes. Et puis c'est le croisement des chemins entre les courants marins des Landes et le golfe de Gascogne. Et moi, gamin, j'adorais, enfin, encore aujourd'hui, j'adore les vagues. Je ne surfe pas, je suis bodyboarder. Donc j'ai ça dans le sang, l'océan. Et moi, je suis revenu il y a 6 ans à peu près, parce que l'océan me manquait. Je l'avais vu plusieurs fois depuis mon adolescence, mais j'avais vraiment, c'était un rêve d'enfant de réussir à vivre à côté de l'océan. Et donc ça, c'est le premier motif du fait que... Puis je change de zone de vie tous les 10 ans à peu près. J'étais en Franche-Comté, Besançon pendant 10 ans. Après, ça a été Lyon, entre Lyon, Montpellier, au niveau de mon lieu de vie. Les Cévennes un peu. Et j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des domaines... Au départ, ma formation, c'est philosophe. J'ai un niveau Bac plus 2. J'ai fait 3 ans à la fac, mais j'ai vraiment pas... compris ni voulu aller plus loin, puisque ça me correspond pas du tout, surtout la mentalité générale, pas que des profs, hein, les profs c'est des profs, ça reste des humains et tout, mais les élèves et puis le décalage, la différence d'accès à la culture aussi, le fait que si on croise un Chinois en université, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille riche. La chose est un peu moins vraie en France, mais c'est pas trop ce qui me correspond au niveau de la mentalité. J'ai besoin de personnes des couches franches, on va dire, de personnes qui ne soient pas dans des protocoles ou dans la société de service. Et l'université, elle, quelque part, elle m'a fait peur, et puis en même temps, elle m'a donné ma méthode, puisque ça m'a donné la méthode, puis de l'affection pour la réflexion, la lecture des symboles. Donc j'ai un parcours assez atypique. Et ensuite, je suis parti sur la nature, sur les espaces verts, l'agriculture bio. J'en ai fait un peu plus d'un an dans une association que peut-être vous connaissez. Ça s'appelle, c'est les foyers Julienne Javel. Et autrement, le collectif autour des jardins, ça s'appelle les Jardins de Cocagne. Il y en a un peu plus de 40 en France. Et donc j'ai travaillé chez eux. Ils font de la réinsertion, mais aussi du panier pour personnes à faible revenu. Et donc déjà là, ça m'avait intéressé de voir... qu'en travaillant chez eux, je repartais chaque semaine avec mes quelques kilos de fruits et légumes du jour, de saison, et que des familles, pour eux, ils ont un panier. Alors je crois qu'aujourd'hui, l'inscription, ça doit être 220 euros par an pour pouvoir venir toutes les semaines chercher. Quand vous êtes en famille, vous aidez par famille, vous avez 8 kilos par semaine de fruits et légumes de saison. Donc tout ça, c'est un peu ce que j'aime pas dans le jardin familial. Mais c'est beaucoup mieux que rien. Le jardin familial, ce que j'aime pas, c'est son hermétisme. C'est le fait que les gens font des barbecues entre familles et entre connaissances. Si vous rentrez, on vous dit « Ah ben non, monsieur, c'est pas entrée libre. »« Ah bon, c'est un jardin ?»« Mais oui, mais c'est chez nous. »« Ah oui, c'est notre jardin. » Bon, c'est comme si je mettais le pied dans une maison et puis que j'allais visiter un jardin. Donc moi, ici, c'est pas comme ça que je me sens. On me dit « Ouais, mais c'est toi qui es ici, c'est toi le chef et tout. » Non, moi, faut faire la différence entre... je pense plutôt que je suis un leader au niveau de l'investissement énergétique que de ma personne et puis du RSA, parce que c'est pas trop mon argent moi, le RSA c'est un droit que j'ai, donc j'essaie d'exploiter ce droit pour générer quelque chose, pas parce que je culpabilise, parce que je pourrais faire autre chose, je pourrais vendre de la drogue, je pourrais faire des trucs un peu plus illégaux, mais je pense que l'illégalité, c'est pas moi ce qui me porte. Moi, je suis dans un sécessionnisme volontaire par rapport à ce qui organise la souffrance des autres. C'est-à-dire de ceux qui n'ont pas les moyens de résister, de ceux qui n'ont pas les appuis sociaux, de ceux qui n'ont pas l'énergie, ni la réflexion. Ça peut être ça aussi. Ou qui sont trop abrutis par la télé, par les médias, et je leur dis pas, je fais pas une thérapie par le choc, j'essaie juste de leur donner des pistes, quoi. Mais dès que vous êtes en dehors du champ de ce qui est admis, c'est-à-dire la télévision, bah vous êtes le marginal, obsédé sexuel, sûrement peut-être autre chose, mais ça, on va peut-être savoir, mais il y a toujours une attention vicieuse, puisqu'il n'y a pas un intérêt direct de la personne à générer ça. Bah pourquoi il fait ça? Pour faire assistance sociale, pour baiser des meufs, pour, enfin, les gens ils sont un peu, ils comprennent pas.
Il y aurait quelque chose à faire rentrer là dans, dans une légitimité, mais alors nous on a essayé d'en parler avec les élus, il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Mais alors faire rentrer ça dans, le, dans un cadre de jardin, d'accueil pour les gens de la rue, ben voilà, il faut pédaler parce que là il y a des représentations à faire tomber, mais on aurait tout intérêt à être intelligent, ouais. Parce que ça c'est. Ça, c'est vivant. C'est un modèle vivant, quoi. C'est pas un bureau où il y a une dame avec un papier ou sans être caricatural, quoi. Mais il y a quelque chose qui peut redonner, là, quelques moyens, quelques outils. Et le rural dans l'urbain aussi, parce que ici les gens, ils sont dans la nature. Ils retrouvent la nature, quoi. Donc, il y a un projet à écrire. Damien fait pas les démarches, mais il peut très bien expliquer son projet. Et il est construit et il est pensé de ce qu'il fait, quoi. C'est pas juste du délire tout le temps. D'ailleurs, ça se voit, hein, regarde. Il est en train de te faire des parcelles. Là-bas, il a fait des buttes. Tu vois, l'allée, s'il fait des allées, s'il fait des comme ça, des palissades, c'est pas juste. C'est vraiment, il structure quelque chose. Il est vraiment dans une écriture, dans une construction, quoi. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un moment donné entre les vraies initiatives, comme on dit, innovantes, créatives, ou en tout cas humaines et intéressantes pour relier les uns et les autres. Elles se sont tout de suite confrontées à tout un tas de contraintes techniques, administratives et de sécurité qui sont étouffantes, quoi. Nous, on voit, on est en train de mettre une serre à Brana, la prise de tête à la mairie pour que d'un coup ça soit sécurisé, le juridique et tout ça, ça devient un infernal. Alors après ils redescendent, hein, mais au début les questions ça rentre tout de suite dans les angoisses les plus morbides, en fait. Et en fait le logiciel est quand même branché dans la société, dans ceux qui la construisent, ceux qui la dirigent, est quand même branché sur un niveau d'anxiété, d'angoisse vis-à-vis de la sécurité trop. Ils peuvent pas, eux, assumer tout ça en tant qu'être humain. Et en fait, ils font pas du tout confiance à la société, aux gens, pour justement être avec eux et créer vraiment une conscience sur les projets collectifs qui sont pris. Donc effectivement, du coup, on est dans du délire, quoi. Mais à un moment donné, il faut faire confiance à la vie et aux gens. Mais les gens, il faut les rassembler, il faut leur parler, il faut échanger avec eux pour que ça se passe. Et déjà, on est un peu plus en sécurité. Je comprends qu'ils soient en insécurité par rapport à leur responsabilité d'élu. Mais déjà, quand on commence à rassembler des gens autour d'un projet qui peut paraître, qui a des caractéristiques singulières, on vit ça autrement. Et généralement, la conscience qui s'installe, l'attention, quand même crée autre chose. Mais ça, ce autre chose, on ne veut pas le laisser pointer son nez parce que ça nous dépossède aussi, quoi. Mais on s'est rencontrés, mais c'était quand les
indignés? Sur la main de Chao Pelletier, il y a quelques années, là, voilà. Pendant le mouvement des indignés. Voilà. Ils faisaient la cuisine, tout ça.
Il s'occupait de tout récupérer pour la cuisine, pas tout seul, mais là-bas on arrivait à nourrir une centaine de personnes tous les jours avec tout ce qui était récupéré à Bayonne, quoi. Et là c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il continue à faire, parce qu'il y a pas mal de supermarchés là qui balancent des trucs. Il est à côté de la décharge municipale, donc il n'arrête pas de faire ça. Et toujours avec un très bon esprit de générosité, quoi. Mais du coup, c'est là-bas qu'on l'a rencontré, quoi. Donc c'est toujours ces idées-là, cette envie d'autonomie et puis de gaspiller moins et de vivre autrement le monde qui l'amène à ça, quoi.
Quoi, il sait tout faire, quoi. Ouais. Hein, il fait de la cuisine, il fait de l'ordinateur, je crois qu'il fait du son.
Un diplôme de menuisier.
Menuisier, charpentier.
Il dessine, il fait de la musique, il écrit. Il s'intéresse à beaucoup de choses et il est très doué aussi en tout ce qui est technologie. On peut vous parler des ordinateurs.
Ouais, c'est un peu le Kerouac Village là quand même. Hein, c'est le Kerouac Village là. C'est le monsieur Plombin, il a dit ça l'autre fois quand je lui ai expliqué la zone ici. Il me dit, ah mais ça c'est du Kerouac ça.
C'est du Kerouac ou du taureau?
Du Kerouac.
Ah ouais.
Ben oui, Kerouac c'est un peu la création à la marge. C'est quelqu'un qui est dans le monde et qui va dans tous les endroits de marge, et c'est là où il trouve sa créativité. Et les zones comme ça de squat, c'est aussi des endroits de marge, comme à Détroit, dans les zones désindustrialisées. Voilà.
En tout cas, quand on passe un moment là, ici, avec Damien, on parle de choses. On apprend souvent des choses ensemble. On parle vraiment. Voilà.
Ça doit faire à peu près 2 ans. Qui avait que des ronces. Et donc il y a 1 an et demi, il y a une première personne qui est venue et qui a dégagé jusqu'à cette caravane, à peu près 10 mètres devant cette caravane, dans un rayon de 5-6 mètres, on va dire. Et je me suis fait expulser et j'ai décidé de venir ici sur ce terrain, organiser cette friche et ensuite y habiter très vite, puisque j'étais expulsé 1 mois après avoir commencé vraiment le travail de fond ici sur les ronces pour dégager un espace de vie un peu plus étendu. Et puis il y avait tout le problème de l'eau à gérer dans un premier temps. Donc on est venu, on a ramené du matériau ici, des matériaux qu'on a récupérés avec l'aide de personnes, c'est-à-dire soit des entrepreneurs, comme la personne qui est en train de construire au bout du terrain, là, il m'a donné la possibilité d'aller me servir à volonté dans ces matériaux pour créer des semelles ici, puisqu'au départ c'est considéré comme inondable. Mais bon, après il y a un système de tranchées par rétention et pourrissement qu'on a tracé ici. Et donc ces rétentions et pourrissement, c'est-à-dire que l'eau circule, mais ne circule pas au même rythme qu'une tranchée nue dans laquelle il n'y aurait que du gravier ou qu'un substrat unique. Là, il y a un phénomène de pourrissement et ici, il y a eu, on la voit beaucoup moins, il y a une butte à peu près d'1,30 m qui a réduit puisqu'elle était posée l'année dernière, cette butte. Et au fur et à mesure, tout ça, ça produit un terreau, un effet d'éponge et ça permet au cycle de l'eau de modifier, on va dire, le cycle de l'eau sur ce terrain puisque la forme du terrain, l'eau fait comme ça. Et donc entre l'eau qui tombe des arbres et l'eau qui faisait comme ça, ici en permanence il y avait 25 cm de boue, d'eau, etc. Et c'est fini, aujourd'hui il n'y a plus que l'eau qui goûte des arbres. Donc on a franchi déjà une grande étape, on est hors eau, donc on n'est déjà plus en survie. Donc moi au mois de juillet, j'ai commencé à vivre dans cette ossature bois, puisqu'au début l'ami m'avait laissé cette caravane. Mais vu que je suis charpentier depuis quelques années et puis que j'ai pas envie de me tuer à la tâche pour du vide, c'est-à-dire payer pour un appartement qui n'est pas à moi, pas avoir de terrain, pas pouvoir bricoler, je préférais ici faire, on va dire, plusieurs zones laboratoires et au niveau du potager et au niveau de la construction de l'ossature bois et entreprendre un lieu de vie. Et dans un premier temps, c'était la réalisation des toilettes sèches, un coin cuisine séparé, et ensuite ne plus être en position semi-nomade, c'est-à-dire en caravane, et avoir un habitat fixe et un lieu de vie ici, vivre ici. Donc ça, c'est depuis le mois de juillet que je suis dans cette ossature. J'ai pu tout isoler avant l'hiver, avec des matériaux que des associations sur Bayonne m'ont donné, entre autres Chirindola et Graines de Liberté, qui m'ont beaucoup aidé. Autrement, c'est isolé. Il y a aussi des panneaux solaires juste derrière. Donc, je ne suis pas sur le réseau public urbain, je ne vole pas mon électricité. Selon la loi, je la vole d'une certaine manière puisque je la stocke dans des batteries. Je ne suis pas relié au réseau ni en contrat avec EDF. Mais d'un autre côté, il y a une autonomie énergétique ici qui est atteinte. Au moins au niveau de la lumière, de la recharge d'appareils portables, de l'accès à Internet. Et après, les projets qui suivent ici, ça aura aussi trait à une connexion Internet gratuite ici, ce qui veut dire une antenne avec un système d'amplification Wi-Fi. Donc, mes panneaux solaires, là, pour le moment, j'ai 200 watts. J'ai aussi, dans le jardin qui dorme, un panneau de 900 watts abîmé qui envoie à peu près du 500-600 watts. Donc, il faut que je trouve quel type de régulateur pour fonctionner avec, puisque c'est une histoire de potentiel de charge par rapport à des régulateurs 48, 36, 24 ou 12 volts. Et si j'arrive à le faire marcher, j'aurai une plus grande autonomie encore au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on pourra avoir peut-être un frigo, sûrement du matériel portatif plus performant. Bon, j'ai un petit groupe électrogène, mais je m'en sers vraiment sur les coups de bourre quand je dois me servir de ma scie sauteuse en particulier, sinon je m'en sers jamais, surtout pas pour la lumière. Et donc là on arrive dans la partie jardin, et au départ j'ai fait une séparation qui était ici, et pour empêcher les chiens d'accéder librement au jardin, puisque les chats ça va, vu que moi j'ai que deux chats, mais je suis souvent en relation avec des personnes qui ont des chiens, ou des personnes qui aiment venir ici ont des chiens, et donc il faut pas que ces chiens accèdent à la zone de plantation. En ce moment c'est un peu en friche, partout vous voyez ces fleurs là, c'est des salades qui sont à la 4e, 5e génération par rapport à l'année dernière, elles ont été plantées au mois de mai. Pardon ? Ah non, je croyais qu'il me parlait. Il me regardait en levant la main.
Ça se passe bien avec les voisins, les gens autour ?
Ben, c'est assez exceptionnel puisque on a eu beaucoup de chance sur par rapport à ce qui est arrivé, c'est-à-dire aux personnes qui sont venues s'implanter. On a un maçon, un maître maçon qui réalise son siège social et d'entreprise juste au bout de notre terrain. Et quand celui-ci est venu reconnaître son terrain et commencer à faire ses premières relevés topographiques, puisqu'il a dû faire des forages assez profonds de 18 mètres, on s'est rencontrés et il a vu que je faisais du piment. Et j'avais une quarantaine de pieds de piment qui donnaient. Ça devait être au mois d'octobre, donc il y avait encore beaucoup de piment. Et il a été un peu surpris que je puisse faire pousser des piments ici et que j'ai bien réussi, parce que lui est d'Espelette et connaît le piment. Et il est même reparti avec une bourse de piment et quelques courges butternut. Et il était agréablement surpris. Par la suite, on a continué à communiquer ensemble. Il y a une sorte de connivence de sa part, parce qu'il a des grosses machines-outils et un gros débit de matériaux. Et au lieu de laisser sa terre sur chaque pilotis qu'il a creusé, sa terre il l'a mise pour casser mon vis-à-vis, ainsi que ces sortes de caisses de chantier pour pas qu'on ait de vis-à-vis avec la route qui passe à côté. Donc j'espère que ça va continuer, qu'on va s'entraider, je peux lui fournir des salades, si je peux avoir des bons rapports de voisinage, mais au-delà de ça aussi, tisser un lien local. Et puis légitimer aussi ma participation à la zone artisanale, puisque ici, ça n'est pas que loger des personnes ou produire du bio, ça, c'est aussi un atelier vélo, et c'est aussi deux ateliers fusionnés pour le moment, c'est-à-dire charpente et menuiserie. C'est-à-dire qu'il y a tous les outils. J'ai l'ami qui est présent là-bas, lui, qui a son titre pro, qui travaille en tant que menuisier. Et moi je suis charpentier, donc depuis 3 ans, mais bon, je suis un peu touche-à-tout, j'ai fait de la charpente métallique avant, des espaces verts, du bûcheronnage, et j'ai envie que tout ce que je sais faire me permette de créer une plateforme où les personnes puissent et entreprendre et se régénérer, sortir du rythme, retrouver un rythme de vie en zone périurbaine, puisque en centre-ville, il n'y a plus que des transits de personnes, de marchandises. Et réussir aussi de cette manière-là à soulager d'une certaine manière les associations du caritatif et les associations d'aide aux personnes sans domicile fixe. Que ça reste un pôle ouvert d'échange, de savoir-être, de savoir-vivre. Et on n'a même plus à parler de tolérance ni de respect, puisque ça, c'est des données qui viennent ensuite, une fois que cette plateforme elle est saine. Donc là, je suis encore dans une phase où j'essaie de donner mon énergie pour comprendre tous les rythmes qu'il y a sur ce terrain. Et j'ai fait un choix arbitraire de le séparer en deux pour qu'il y ait une partie du terrain qui soit zone de vie et l'autre partie laboratoire végétal, comme le travail du symbole vivant, c'est-à-dire le piment. C'est pas uniquement parce que le piment, c'est bien vu dans le Pays Basque d'avoir des piments. C'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour la culture du piment, et le goût du piment, et puis on fait des préparations ici en été que je n'ai pas à vous présenter, ici en ce moment, mais on fait une sorte de harissa à l'ail et au piment. Et il y a une autre plante que j'essaie de mettre en avant aussi, qui a un cycle qui chevauche le cycle du piment. C'est l'amarante et l'espèce Red Oppidae. Cette espèce est très pigmentée d'un rouge qui porte son nom et produit une graine deux fois plus nourrissante que le blé et des feuilles consommables du début à la fin de sa croissance. Et elle est vue comme une adventice, comme une mauvaise herbe, alors que culturellement, elle a été éliminée de la culture aztèque pour que l'urbanisme aztèque tombe face à la présence espagnole et portugaise. Donc c'est tout des souches bio de chez Cocopelli. Je fais un peu de pub, parce qu'ils se prennent assez de procès pour qu'on puisse faire un peu de pub pour eux. Et donc c'est un mélange d'arroches et de 6 salades, 3 arroches. Et donc là, ce que vous voyez, c'est ce qui est monté en graines et en fleurs au moins 4 fois depuis mai dernier. Et je les ai laissées en place parce qu'elles attirent les premiers pollinisateurs en début de printemps. Une fois que celles-ci seront à nouveau montées en graines, je récolte une bonne partie des graines. L'autre partie est consommée par les oiseaux, parce qu'ils adorent les salades montées en graines. Ils arrivent dedans comme un numéro de cirque. Et ensuite, donc, je déracine tout, je laisse en place pourrir, en veillant à ce que l'eau ne stagne pas aux endroits où je fais les pourrissements. Et là, je crée un nouveau spot, on va dire, puisqu'il y avait encore des ronces sur les deux tiers de la surface de droite du jardin, et un vinaigrier qui m'empêchait de faire du potager. Donc j'ai décimé le vinaigrier, on va dire élagué assez bas, à 1m50 à peu près, à 1m40. Et donc il va à nouveau, il est vivant ce vinaigrier, et comme ça je peux faire des zones de culture autour, en butte paille. Et donc là-bas j'ai mis un petit espace de culture, et un blocage de la pollution, parce qu'on a découvert des piles et 2-3 merdes au niveau du sol. Et afin de pouvoir faire du potager à une huitaine de mètres, j'avais fait 3 rideaux d'environ une quarantaine de pieds d'amarante qui ont été enlevés du terrain, qui ont été retirés du terrain une fois que la terre a été retournée et triée au niveau des déchets. Et donc ça, on doit le faire chaque année, c'est-à-dire faire pousser des plantes qui ont une grande capacité de stockage au niveau des métaux lourds. L'amarante en fait partie. Il y a énormément de plantes qui en font partie, mais il faut connaître ces espèces. C'est encore... une zone test en ce moment, mais c'est une zone où on a réussi, à mon avis, à modifier déjà d'une le pH du sol et de deux renouveler, puisque on voit qu'en lisière il y a énormément d'orties, et les orties c'est quand même un indicateur d'une terre en bonne santé. Donc à mon avis, c'est aussi pour ça que la limite entre le jardin et la zone de vie se trouve ici.
Et, là, et les plantes, une fois gorgées de pollution,
il faut les sortir du terrain, les amener à la déchetterie. En spécifiant, c'est des plantes qui sont brûlées avec des filtres spéciaux qui retiennent les particules. Mais bon, personne ne le fait quasiment. Puisque si vous mettez là-dedans tous les résidus d'élagage et d'herbes et de feuilles qui sont en bord de route et qui sont gavés de métaux lourds, y aurait un travail et puis des investissements énormes à faire. Réussir à produire un début d'autonomie alimentaire ici, ne serait-ce qu'au niveau des légumes, d'un apport de légumes, de fruits de saison, ça permet à des personnes qui sont manchards dans des centres-villes et bien atteints au niveau alcoolisme, déjà d'avoir un petit visuel et prendre des couleurs dans les yeux quand ils arrivent ici. S'ils viennent le week-end, ils sont dans un calme relatif, puisque la semaine, les gars de la ville tournent beaucoup ici, il y a quand même de l'animation, du bruit, du moteur explosion, donc ça c'est encore autre chose à gérer. Mais ces personnes, très souvent, à plusieurs reprises, c'est arrivé ici en moins d'un an, prennent un mois déjà pour retomber sur leurs pattes, et en moins d'un mois, ils sont dans le jardin, ils sont plus bourrés à être bleus, ils sont juste roses des pommettes, et le soir, ils tombent, quoi, parce qu'ils sont fatigués, quoi. Et surtout, ils se remettent à chier. C'est marrant, les trois personnes m'ont fait la réflexion. Depuis que je suis ici, je chie 2 fois par jour, comment ça se fait ? J'ai dit, regarde, et je fais des ragoûts, je fais des piperades, tu manges du légume tout le temps. C'était quand la dernière fois que tu as mangé des légumes régulièrement ? Et les gens se retrouvent dans des cycles, on va dire, qui correspondent plus à un rythme qui les régénère. Quand c'est des personnes qui sont déjà en souffrance, ça les fait beaucoup moins souffrir de faire un petit passage par ici et de se recaler. Et ensuite, rebondir, repartir sur des saisons, travailler en saison par exemple, ou trouver un appartement. prendre le temps de refaire des papiers, de se remettre en lien avec les services sociaux. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est pas créer une résistance ni monter sur un ring quel qu'il soit. Moi, pour moi, dans l'idéal, c'est la ville qui aurait besoin de mon soutien pour délester une partie des associations qui sont surchargées. La Croix-Rouge, ils sont en train de couper des dossiers alimentaires parce qu'ils n'ont pas de budget. En même temps, tout est payant à la Croix-Rouge et c'est eux les premiers qui reçoivent des dons en France au niveau associatif. Donc il y a des problèmes certains de structure et d'échange entre les humains et au niveau local. Tout ça aussi, c'est un potentiel qui est à exploiter ici. Je ne prétends pas remplir toutes les tâches parce que ça serait trop s'éparpiller. Pour moi, les tâches, c'est faire construire de l'habitation qui nous permette d'être dans un confort relatif pour pouvoir prétendre ensuite avoir quelque chose d'abouti à offrir aux personnes qui viennent ici, aux quelques familles à qui on fournit de la courge, des légumes en quantité pendant les périodes où on en a en quantité, aux associations qui viennent nous aider pour cuire des quantités de soupe alors que nous on n'a pas les moyens de les cuire. Donc tout ça c'est au fur et à mesure que ça se fait. Et pour moi, l'action directe, c'est juste de vivre ici. Et vivre ici, ça veut dire, vu que je touche le RSA, eh ben, pas jouer à la victime et puis créer une zone relais, une zone d'échange de savoir-faire pour que les personnes sortent de leur rôle qui est devenu un rituel automatique de victime. Et donc reprendre sur l'agir. Et donc après, chaque année, ça va être une étape différente. Ça va être une subtilité qui va disparaître, une autre qui va venir. Et les choses les plus pragmatiques, à mon avis, sont déjà là et à travailler pour devenir, pas rentable, mais organisé autour de l'humain. Et c'est sûrement ça l'aspect qui, selon moi, est rentable sur le moyen, sur le long terme. Ben, ça va devenir un support pour du cinéma en plein air, en fait. C'est ça l'objectif sur ce château d'eau. L'objectif qui, à mon avis, n'est pas si utopique que ça. Il faut juste une plateforme qui élève assez le projecteur pour que l'image ne soit pas trop difforme. Et ensuite, on pourra projeter une image de cinéma indépendant, du documentaire. Et puis, pas obligatoirement en créant des manifestations, mais en étant une manifestation du vivant dans cette zone Saint-Fred, bouffée par l'industrie... aussi un sanctuaire pour les animaux qui restent dans cette zone. On a deux couples de chauves-souris qui sont là, que moi j'ai repéré l'année dernière, qui vont revenir très prochainement. Des rapaces qui viennent réguler au-dessus de ces zones-là, qui sont quand même assez proches de l'Adour. Quelques rouges-gorges et énormément d'espèces insectoïdes que je ne connaissais pas avant. Des papillons de nuit incroyables, des chenilles magnifiques, quelques chenilles processionnaires. Il y a aussi ici... un nid de frelons asiatiques, donc je l'ai gardé pour permettre aux personnes de faire la différence, de ne pas bondir dès qu'ils voient un nid de guêpe, de frelons ou d'abeilles, mais déjà essayer de comprendre. Donc le nid du frelon asiatique, là, il est mis de travers, il se présente comme ça. Puisque le frelon asiatique ne supporte pas le vol vertical, toutes les entrées sont latérales. Et donc vous voyez, quand vous mettez bien en face, tout communique par strate. C'est typique d'un nid de frelon asiatique. Et donc les nids ne sont pas réoccupés d'une année à l'autre, la colonie s'effondre, la reine se barre et reforme une autre colonie l'année qui suit. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment dégager toutes les ronces, puisqu'elles se trouvaient au milieu des ronces, cette ruche de frelon asiatique. Ce nid de frelon asiatique, pardon. Et voilà, donc remettre les personnes aussi en face de leur névrose et de leur frayeur un peu débile des fois, devant des exemples concrets qui sont devant eux, leur montrer que même un frelon asiatique, il ne sera pas agressif si on n'engage pas, on va dire, un combat contre lui ou qu'on n'a pas une peur manifeste de lui, il n'y aura pas d'attaque directe. S'il n'y a pas de mise en cause de sa colonie, il n'attaquera pas. Mais bon, après, c'est quand même c'est des bestioles qui déglinguent les abeilles, quoi. Donc, il faut quand même veiller à faire attention quand on se retrouve en présence d'un nid, Moi, j'ai appelé les pompiers avant de décrocher celui-ci, puisque je l'ai repéré en plein hiver. J'aurais demandé s'il y avait un risque. Ils m'ont dit qu'il y a un très très léger risque, puisque ces colonies ne sont pas pérennes. Donc j'ai vérifié à plusieurs reprises, j'ai coupé très doucement, puis après je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout d'activité. Donc je l'ai enlevé. Et après, il y en avait plusieurs aussi, il y en avait deux qui ont été enlevés par la ville, là, pas très loin. Il y a un arbre qui s'est effondré en face de notre terrain, et les gars de la ville ont eu l'amabilité de nous fournir le débris végétal. Les graines de liberté m'ont permis aussi de récupérer une partie des débris végétaux qui ont été rajoutés ici sur la zone de vie, pour nous mettre hors eau. Et sinon, les choses avancent pour que, dans un idéal, chaque lieu de vie ait un accès à l'éclairage la nuit. Et on a aussi beaucoup de récupération par rapport à la zone, puisqu'il y a beaucoup de palettes qui sont mises au rebut et dans des bennes extérieures, donc il n'y a pas de violation de propriété privée. On essaie de se mettre le moins possible dans l'illégalité, peut-être au niveau de l'eau, qu'on en veut en gros en centre-ville, dans les fontaines, avec la chariote à vélo. Et maintenant, au quotidien, ça nous arrive de taper dans les robinets qui sont à l'extérieur des bâtiments quand il y a un accès. Donc il y a encore ça à gérer, c'est au niveau de l'eau potable.
Vous avez essayé d'avoir des réservoirs, eau de pluie, des trucs comme ça?
On a des réservoirs eau de pluie, on a de la récupération d'eau de pluie, mais ça sert au pire pour la vaisselle. C'est-à-dire, cette eau de pluie, quand elle est fraîche et qu'elle n'est pas stagnante, on s'en sert pour faire la vaisselle. Le jardin, on a l'eau pour le jardin. Et après, on fait des voyages, on se débrouille autrement pour l'eau potable, pour avoir une certaine autonomie aussi au niveau de l'eau potable. Et moi, un des projets aussi ici, c'est de poser des pièges avant. Et les piliers pourraient très bien servir de support pour des sortes de nasses et des sortes de filets mis en suspension qui ont une capillarité qui permet aux gouttes de rosée, aux gouttes de vapeur de la brume. Ici, on est les pieds dans l'eau plus que ça, puisqu'on est très souvent au-dessus de 90% d'humidité à cet endroit-là, dans la zone Saint-Frédéric. Et donc ça permettrait de récolter, suivant le nombre de filets, entre 20 et 50 litres d'eau par 24 heures. Donc après il faudrait reminéraliser cette eau, c'est pas à faire à la légère non plus, ni à consommer n'importe comment. Mais ça serait de l'eau potable. Certainement à refiltrer au charbon et à reminéraliser. Donc ça c'est encore des objectifs à atteindre, comme je vous parlais tout à l'heure, d'un système d'amplification Wi-Fi pour réussir à accéder au hotspot gratuit, entre autres de McDonald's, de KFC, pour avoir une connexion au débit la journée. Au moins, plus de 12 heures par 24 heures. Et ici, donc, il y avait une flaque. On n'a jamais réussi à faire que l'eau ne stagne pas ici, alors on a fait un trou, on a mis des tuiles au fond et on a implanté de la motte d'herbe. Ce qui fait que c'est l'herbe qui prend le dessus, l'eau ne se met plus trop dedans, maintenant il y a beaucoup d'herbe. Et toutes les mottes comme ça, d'herbe à chat, c'est de l'arbre que j'ai implanté l'année dernière ici. Et ça a permis donc un réenracinement, le fait que l'eau arrive moins ici, tout ça fait partie d'un processus qui est au moins un moyen terme, qui demande au moins un an et demi, deux ans à un terrain, puisque avant c'est les ronces qui servaient de zone tampon, entre les ronces pourries complètement, qu'on générait un humus incroyable ici, la terre est plus performante qu'un terreau de qualité. J'ai fait des tests avec de la salade, c'est assez édifiant. Elle sort deux fois plus vite dans la terre d'ici, bien égrenée avec très peu de sable, que dans une terre de terreau préparée pour faire des godets. Donc je ne cherche plus à aller chercher mon terreau pour faire des godets, je prends la terre d'ici et je sais que ça va aller 30%, 40% plus vite. C'est assez impressionnant. Et donc l'effet de ces ronces, vu qu'il est plus présent, qu'il n'y a plus de tapis de ronces pourris ou pourrissantes, il n'y avait plus cet effet de rétention d'eau qu'il a fallu gérer par palier, on va dire, donc des paliers de culture, cet effet de tranchée, de rétention, de pourrissement pour organiser à nouveau une pousse de vorace. La pousse de vorace, à mon avis, ça sera l'année prochaine, ou en fin d'année, vraiment commencer à ramener de la terre pour faire des butées là où se trouve la tranchée, pour que l'enracinement profond se trouve là où se trouve mes bois morts et mes bois verts en fond de tranchée, c'est-à-dire là où l'eau circule. Et après, c'est un peu le bordel dedans, mais je suis pas quelqu'un de très organisé sur mes affaires personnelles. Vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Je peux vous asseoir 5 minutes. C'est un peu le bordel. Voilà, donc un lit fait par mes soins et un espace de 9 et quelques mètres carrés. Et donc c'est à peu près des spots de cette taille-là que j'ai organisé entre eux, un peu dans l'esprit de la labourdine basque, parce que c'est là qu'il y a un intérêt dans la culture mégalithique et ancienne, et dans les techniques anciennes qui sont déjà écolo bien avant l'heure, puisqu'ils utilisaient des matériaux présents en local, avec des techniques souvent échangées de manière orale entre familles, et même de région en région, quand les techniques marchaient, les gens imitaient. Donc la labourdine, c'est pas trop le principe de ma maison, puisque j'ai pas de bétail et je vis pas au-dessus de mon bétail. Mais disons que la labourdine, au départ, c'est la maison d'un petit paysan qui commence à s'installer. Et au fur et à mesure des générations, cette labourdine, elle a des extensions qui viennent s'organiser autour du corps principal. Et ce que je veux faire, c'est pas faire 30 ossatures autour de cette ossature, mais que cette ossature, elle soit tape à l'œil, dans le sens où elle soit réalisée entièrement de manière artisanale. C'est des assemblages artisanaux. Il y a quand même des matériaux au niveau de l'isolation qui sont pas artisanaux du tout, mais j'ai pas eu trop le choix, j'étais pressé par le temps. Mais d'un autre côté, la taille et la pose de bois est en mode artisanal avec des chevrons, un voligeage. Je vais rajouter le bardage prochainement si on me laisse le loisir de rester encore quelques temps ici. Je devrais organiser le côté sud en véranda pour pouvoir profiter de l'apport thermique, pour pouvoir faire démarrer mes godets de piment, mes godets d'amarante, faire la plupart de tous mes projets, pouvoir les faire démarrer avec de l'avance et éviter d'avoir des serres en plastique qui se désintègrent au bout d'un an. Tout ce processus là, j'essaie de l'enclencher, et je me dis pas vienne qui voudra, je vais chercher des gens même juste parce que je le sens, je le fais beaucoup au feeling. Ça peut être des personnes de plus de 50 ans à des jeunes d'une vingtaine d'années qui sont blasés, on va dire, par leur mode de vie, et qui le vivent en tant que victimes et qui s'organisent en vivant comme des sortes de victimes. Et quand ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un impact direct en agissant tous les jours sur leur manière de manger et puis sur leur rapport à l'autre directement, c'est des personnes, je peux non pas leur faire un croche-pied, mais leur donner une petite plateforme qui va leur permettre d'avoir un certain type de réflexion et d'enclencher ensuite, ou pas. Je suis pas dans une rentabilité. Je pense que mettre une grille pour choisir qui va rentrer, qui va sortir, c'est pas moi que ça incombe. La seule chose qui va faire que moi je vais mettre quelqu'un dehors, c'est le fait que la personne soit violente physiquement. Après, les gens qui gueulent, les gens qui insultent, c'est toujours l'expression d'une souffrance. Donc, y a plein de choses à réaliser ici. Et je pense qu'il y a le potentiel humain à Bayonne pour pouvoir le réaliser et régénérer des choses disparues. C'est-à-dire un lien local et que les personnes recommencent à communiquer aussi sur leur manière de chier, leur manière de manger, leur manière de respirer. Rien que ça, d'être ici, c'est extrêmement motivant. Voilà. Et puis, ça, c'est les prémices de l'atelier vélo. Parce qu'on s'organise déjà d'une. Moi, j'adore les vélos de course.
Ouais.
Avec tout ce qui est balancé en vélo, c'est incroyable. Et on s'organise aussi pour les pièces détachées avec Chirine Dola. Il y a des cadres que jette, puisque c'est des vélos, ils font de la reprise de vélo pour faire des réductions sur d'autres vélos, et nous on reprend des cadres pour pièces, etc. Pas pour les vendre à la ferraille, mais pour pouvoir dépanner, pour pouvoir prendre ici un guidon, là un dérailleur, du câble, de la gaine, etc. Donc il y a des vélos en stand-by, il y a des vélos que j'arrive à donner, puisqu'il y a des jolis vélos pour gamins. Donc la plupart des vélos qu'on réalise ici, soit on les vend au prix de ce qu'ils nous ont coûté pour les refaire, avec des éléments à bas prix que Chirine Dela nous aide à avoir. Donc ça nous fait un vélo pour enfants pour entre 8 et 15 euros, on va dire, un vélo. Comme celui-ci, par exemple, on ne va pas le faire partir à plus de 15 euros, puisqu'on fait ça pour dépanner des gosses qui n'ont pas de vélo. C'est pas pour faire plaisir à des gamins qui vont le jeter à la poubelle parce qu'ils en auront un autre tous les Noëls. Et donc voilà, il y a ça entre autres, c'est important. Et puis aussi les SDF et puis les gens, vu qu'ici on est relativement loin du centre-ville, ben, pour qu'ils puissent retourner un petit peu dans leurs habitudes quand ils en ont envie, voir leurs amis, aller voir d'autres personnes en appartement, et ben, ils ont un vélo. La plupart du temps, ceux qui restent plus d'une semaine, ils ont leur vélo attitré très vite. Et ensuite, soit ils le laissent ici, soit ils partent avec. Donc cette approche-là, que sur l'aspect général du terrain, on n'est pas ici pour produire de l'argent, on est ici pour produire de l'humain et pas faire des gosses à toutes les filles qui vont venir. Mais ça va peut-être venir à un moment donné. Toi, t'as entendu parler d'ici par Graines de Liberté. Donc t'es venu ici parce que t'en as entendu parler par l'intermédiaire d'une association. Moi, je fais un peu aussi l'inverse, c'est-à-dire que je me déplace dans des associations pour aller prendre des douches, parce que bon, les douches en hiver, c'est pas terrible dehors. Et un petit déj par-ci, aller me faire tondre la tête par un pote, passer sur internet, prendre un peu de matériaux culturels. Et donc ça m'arrive moi en hiver d'y aller deux fois par mois pour ça, pour prendre des douches, pour me connecter. Mais je connais, entre autres avec Graines de Liberté, mais déjà avant, le Secours catholique, puisqu'ils ont des jardins qui sont exploités en partie par Graines de Liberté. Mais j'ai souvent été en lien avec les associations du caritatif. Et ceux que j'aime beaucoup à Bayonne, je ne suis pas spécialement catho, chrétien ou quoi que ce soit, mais c'est la seule association où tout est gratuit. Et je trouve ça pas mal par rapport à la Croix-Rouge, par rapport à d'autres associations où la moindre chose, bon, vous revient. Bon, c'est bien de payer les gens, ça les responsabilise, mais ça leur enlève un peu le pain de la bouche aussi, quand ils n'ont pas beaucoup de thunes. Et surtout que quand vous recevez tout ça par donation, le fait de faire payer derrière, bon, c'est encore un autre débat, mais quand vous touchez, vous êtes le premier à toucher les dons des Français en tant qu'association, à mon avis, il faudrait voir à lever un peu plus le niveau de ce que vous demandez aux gens, enfin, baisser le niveau de ce que vous demandez aux gens et augmenter le niveau de ce que vous faites. Au niveau de la banque alimentaire aussi, il y a plein de critiques à faire, un gaspillage de bouffe incommensurable, enfin... Moi, je suis pas là pour tout rénover, j'ai trouvé mes solutions, et ceux qui ont envie de reproduire la même chose ou de faire différemment, tant qu'ils ne cassent pas mes structures vitales, c'est-à-dire mes tranchées pour l'eau, mes plantations, il y a moyen de s'arranger, même la personne peut construire un habitat, du moment qu'elle me... juste une consultation, non pas un consensus, parce qu'on se mettra d'accord, il y aura des compromis, il y aura des consensus, enfin, je ne suis pas axé sur la démocratie, puisque je pense que c'est une utopie, la démocratie. Il n'y a aucun pays où ça existe réellement depuis 600 ans à peu près, sans être méchant, mais le processus démocratique, c'est celui qui a peu de moyens, par son agir, par le droit du sol, donc ça aussi on peut en parler, des villes comme Anglette qui payent 4 millions d'euros par an d'amende par rapport au non-respect du logement social. Si cet argent il était réservé sur le foncier directement et puis que des personnes organisaient des projets, étaient encadrées par des compagnons, par des personnes du bâtiment compétentes, pour travailler avec du matériau local, sans apport d'argent, ben les choses elles iraient beaucoup plus simplement. Mon projet, c'est réussir à réussir à ce que cet endroit-là, il n'ait pas besoin de moi pour exister. Donc, quand je pourrais partir, j'estimerais que je pourrais partir d'ici pour faire la même chose ailleurs, mais je vais le faire en même temps. Je m'organise avec d'autres régions aussi pour créer des sortes d'étapes relais, puis des enseignements. C'est un peu comme les jardins, c'est un peu comme les chantiers éco-participatifs, mais dans une perspective de vie non, pas obligatoirement familiale, pour rénover le système social. Pas obligatoirement, comme je disais tout à l'heure, caritatif, mais d'entraide et de cohésion au niveau du groupe social. Et c'est ce qui manque le plus dans les villes. Des zones ouvertes non réglementées par une forme de discipline abrutissante qui fait que les gens ont des heures pour rentrer, des heures pour sortir, et sont considérés comme des enfants, et au final laissés... avec eux-mêmes la journée et infantiliser complètement le soir. Moi, je ne suis jamais allé en logement social de ma vie et je suis resté quelques années à la rue. Mais c'est un choix. Et après, moi, je ne suis pas là dans un prosélytisme en disant aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, il y a une personne qui m'a fait rire, c'est au Secours catholique. Il y a une nana qui m'a dit, mais vous vous rendez compte, si ça marche que vous faites, tout le monde va faire pareil. J'ai dit, mais et puis vous trouvez que c'est mal. Et, mais en même temps, le Secours catholique, elles se sont déplacées ici. Le directoire régional, quatre mamies très très gentilles et qui ont été émerveillées par le lieu bien avant qu'il ait cette tête-là. Donc tout reste possible. On doit rencontrer des responsables de l'administration prochainement. J'espère que tout se passera bien, il n'y a pas de raison. On n'est pas des ennemis, on ne se cache pas, on ne vole pas. On n'est pas dans quelque chose. On n'essaie de pas stagner, quoi. Il faut aussi comprendre que dans le moyen terme, les choses vont être encore mieux ici. Que dans le long terme, s'il y a possibilité de long terme, ici, ça va être une sorte de petit village qui permette aux gens et d'apprendre des choses et des techniques et du lien, retrouver une possibilité d'avoir un petit carré de potager alors que vous êtes en appartement et que vous n'avez plus de lien avec la nature. Donc entre autres, tout est possible du moment que ça reste dans une perspective humaine, d'échange et de non-violence. Donc après, les choses restent ouvertes. Dans les possibilités qu'il y a déjà ici, c'est déjà énorme. Je pense que c'est inaliénable. Le droit du sol, c'est la seule chose qui manque pour que les personnes retrouvent leur dynamique profonde. Et après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer les gens à devenir paysans. Il faut juste leur permettre d'avoir accès à la terre et de se réaliser.
Et c'était venu comment?
Bah c'est une réflexion de plusieurs... sur ma vie, sur ce que j'ai envie d'entreprendre, c'est dans quoi j'ai envie d'investir mon énergie, dans quel processus j'ai envie que ce que je réalise puisse servir aux personnes qui sont en face de moi, non pas pour dire fuck la société ou fuck les gens ou quoi que ce soit, juste pour dire ben regarde là, si t'as une idée avec un peu de concentration et puis de ténacité, ben tu peux arriver à faire le tiers de ton idée. Si t'as une idée trop énorme au départ, mais t'auras fait le tiers et tu pourras dire le lendemain hier j'ai fait ça, et avancer tous les jours, pouvoir bricoler, pouvoir taper sur un morceau de bois sans avoir 15 voisins sur le dos, pouvoir être à 6 personnes ou 8 en train de faire un barbecue de manière normale et puis pas avoir des voisins excédés juste parce que c'est un lundi soir. Enfin, c'est un ensemble de choses, c'est le cadre qui est ici et en même temps le sanctuaire que cet endroit est devenu. Je pense autant pour les espèces animales que les espèces humaines. Puisqu'on peut bien parler d'espèces dans les manières qu'ont les personnes de se situer dans les strates dans lesquelles on les force à vivre. Et donc moi je suis forcé à vivre ici parce que j'ai été expulsé, je le vis très mal, et je le vis très mal dans leur système, de ne pas pouvoir faire ça. Mais maintenant que je peux le faire, je suis heureux. Et après, c'est peut-être pas la volonté de chacun, puisque c'est intérieur, c'est la définition du bonheur, c'est des données presque de l'ordre du religieux, c'est comment vous interprétez votre agir au quotidien, du religieux et ou du politique. Donc pas de l'homme politique, de l'acte politique.
Du spirituel peut-être, plus que du religieux.
Moi je dirais c'est l'acte politique, c'est le mélange entre les deux. C'est au niveau du symbole, hein, pas au niveau social, hein, pas du tout au niveau social. Mais au niveau du symbole, c'est vraiment un acte politique en soi, puisqu'on décide non pas de dépendre de personnes pour qui on a donné une voix, mais que cette voix, elle se répercute sur nous-mêmes, sur notre engagement à réaliser des choses pour faire baisser un type de souffrance qu'on identifie directement, et dans une certaine manière, réussir au travers de ça à réaliser des projets qui dépendent pas du temps, mais qui dépendent de notre capacité à générer des projets. Et que chaque projet, si qui plus est, il a un lien déjà avec les autres projets, ou pas, mais qui génère quelque chose, qui produise une intensité et qui fasse rentrer le lieu en résonance avec les processus de permaculture, avec les processus d'implantation des personnes sur le court, moyen et long terme, sans qu'il y ait de limite, sans qu'on dise « toi t'es là, 3 mois, il n'y a plus de place après, bouge ». Mais sans qu'on soit 30. C'est-à-dire qu'il faut réussir aussi à trouver des personnes qui aient les motifs et l'envie de vivre dans ce cadre-là. Parce que ma cabane, en tout, elle m'est revenue à un loyer à peu près. À peu près 400 euros, un loyer plein, on va dire. En quincaillerie, en enduit, surtout, j'ai acheté quelques outils aussi. Il n'y en a pas pour plus de 400 euros dans cette cabane. C'est très vivable. J'ai eu chaud cet hiver. Quand j'avais le chauffage, j'étais à 25 degrés. Il y a une aération. Il n'y a pas de risque au niveau du CO2. J'ai un chauffage charbon, mais je me suis chauffé cet hiver avec un chauffage pétrole. Puisque ma ligne de fumée, vu que je n'ai pas mon bardage encore sur le toit, j'ai pas pu préparer ma ligne de fumée et j'ai pas l'inox pour faire ma sortie de fumée. Donc tout ça, c'est des investissements. Comme je disais, le système solaire aussi, c'est à peu près le même prix que la cabane. Donc en deux loyers, vous pouvez vivre en autonomie énergétique relative et être dans une certaine forme d'habitabilité. Vous n'êtes déjà plus dans la survie. Vous n'êtes déjà plus en centre-ville sous des arches ou dans des squats gavés de puces ou à vous faire taper parce que vous êtes sur des intérêts privés ou publics. Ici, il semblerait qu'il y ait moins d'intérêt sur ce terrain qu'un bâtiment construit, déjà d'une. Donc il n'y a pas de fierté administrative à maintenir un terrain vide. Entre guillemets. Ensuite, ça appartient à l'agglomération. Donc, les poursuites administratives, elles doivent se passer par le tribunal administratif de Pau. Donc, ça veut dire que c'est un peu plus sur le long cours, comme on ne peut pas se faire jeter directement pour insalubrité, vu qu'il y a des toilettes sèches, un coin cuisine séparé, que les personnes ont de quoi dormir au sec. Donc, c'est pour le moment encore entre deux eaux. Mais moi, mon objectif aussi, c'est qu'ici, ça saute aux yeux qu'il y a les normes de sécurité. Il y a un extincteur de grande taille. Il faut que tout ça, ça avance aussi, qu'il y ait un meilleur accès, que ce soit moins le chantier partout, qu'il y ait moins de planches avec des clous, faire très attention à tout ça, pour que toutes les générations puissent être présentes ici, si elles en ont l'envie. Si elles sont tirées par un jardin luxuriant, enfin, tout ça, ça participe. Moi, ce que je recherche, c'est qu'il y ait un maximum de générations ici, d'une pour la qualité des échanges, et de deux pour montrer que c'est un endroit qui mérite le détour. C'est ça, tout simplement. Quand vous avez toutes les générations, vous avez gagné. Vous n'avez plus personne qui va vouloir lutter contre vous, puisque vous représentez ce qu'est la société. Donc,
combien de personnes sont déjà passées ici ?
J'ai pas fait de compte. Puis il y a des personnes qui sont restées 2 jours, il y a des personnes qui sont restées 4 mois. Donc c'est assez variable. Là actuellement on est 2,5 quand on compte les deux chats comme une demi-personne. Et puis les personnes qui peuvent passer le week-end ici ou qui ont besoin juste de renouer avec un certain rythme, avec un certain cadre, même si ici c'est assez particulier. Vu qu'on est au milieu d'une zone artisanale et puis que quand même là on est en hiver, il y avait beaucoup d'eau, les gens qui vont venir cet été, moi j'ai envie de leur dire mais vous étiez où cet hiver, bande de petits malins, pendant que moi je faisais mes tranchées et tout. Il y a ceux qui savaient que j'étais là qui sont venus et puis tous les autres qui sont pas venus. C'est marrant aussi à quel point on va dire le taux de confort relatif d'un endroit conditionne les personnes à y être ou pas. Et moi une des questions les plus marrantes qu'on me pose, enfin, c'est marrant, c'est parce que j'ai décidé que ça allait plus m'attrister, mais que les personnes me posent sur ce terrain, c'est « Est-ce que tu as la télé ?» Et je leur dis « Mais elle te regarde la télé, toi ?» Enfin, mais je leur dis « Non, pour moi, le confort, c'est pas d'avoir une télévision. Pour moi, le confort, c'est pouvoir me connecter à Internet si je dois me connecter ou si j'en ai besoin. Et d'un autre côté, pouvoir, vu que j'aime la production vidéo, je réalise du son aussi, je m'éparpille beaucoup, donc j'ai besoin d'un certain confort technologique, on va dire. C'est pas pour autant que je vais rester 8h, 10h sur mon ordinateur dans ma cabane, même s'il pleut, j'essaie de mettre des coups de pied au cul, il y a des jours j'arrive, des jours pas, quand il y a des temps incroyablement horribles pendant 3 mois, oui, il y a quelques journées où je bouge pas, quoi, je sors un peu. Juste pour aller pisser et puis je sors pas. Mais même d'autres jours, j'ai un peu plus d'énergie, j'arrive à sortir, à être dehors, parce que je sais qu'il faut que j'ai des termes temporels à respecter, que le jardin par exemple, là, il faut que tout soit en place dans vraiment pas longtemps. Donc tout ça, ça me donne des perspectives réelles. le rythme du jour et de la nuit aussi, le fait de... On baigne quand même dans l'éclairage artificiel, et il y a eu des périodes de plusieurs semaines où cet éclairage était éteint. C'est-à-dire que le central ne tournait plus au niveau des lumières, et c'était assez appréciable de plus du tout avoir cette lumière. Et par contre, les Davidson, eux, ils ont un groupe électrogène et puis un spot qui éclaire le fond de mon jardin. Ils sont à plus de 100 mètres. Au niveau des matériaux, bah moi j'ai un travail de veille pour trouver ces matériaux, ensuite pour les amener ici, pour enlever les clous qu'il y a dedans, donc c'est déjà pas mal de boulot. Ensuite le stockage. Alors après, j'ai mes chantiers, c'est pour ça que je fais pas trois maisons en même temps, c'est parce que j'aime bien stocker, faire mon chantier. Une fois que j'ai fini mon bardage par exemple, oui, on pourra commencer à entamer une autre construction si quelqu'un a envie d'en réaliser une. Mais ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que si on commence deux maisons, il va falloir deux fois ces matériaux-là, voire un peu plus, ça dépend ce qu'on fait. Et donc les miens, c'est pour là. C'est pas, je vais t'en donner si t'en as besoin, et je vais commencer à t'en parler. Puis je vais te prendre par la main, puis après je vais te dire, regarde là, il y a des palettes, là, il y a une benne, c'est extérieur, il y a du bois tout le temps. Reviens régulièrement, tu stockes ici, tu trouves 10 euros, tu t'achètes une bâche, c'est ton coin, tu stockes. Et les personnes qui rentrent dans ce processus, c'est déjà arrivé, et ben ça marche. Ça marche parce qu'elles font que rebondir positivement, et on rebondit ensemble. Et ça me nourrit aussi. Donc voilà, quoi. Tout ça c'est que du rebond organisé pour pas être soumis à ce à quoi tout le monde est forcé, c'est-à-dire n'être que des individus qui peuvent au mieux s'additionner. La plupart du temps, on se soustrait les uns aux autres, mais dans le meilleur des cas, on s'additionne. Alors dès qu'il y a un pôle où les personnes elles arrivent à se multiplier au niveau de leurs énergies, de leurs connaissances, la transmission du savoir oral et culturel, parce que il y a des choses même encore mieux qui sont réalisables ici et que je vais essayer de faire aussi, c'est-à-dire faire du soutien scolaire, faire pour des personnes qui viennent, des personnes soit sans papier, soit en cours d'obtention de papier, soit des personnes qui ont leur papier mais qui n'ont pas de papier pour travailler, pour qu'elles aient un accès à la culture. À la lecture, donc j'ai une amie sur Bayonne qui est une ancienne prof de français à la retraite, qui est à peine alcoolique mais qui adore donner encore des cours de temps en temps, et elle est géniale. Donc ça, il faut aussi créer la possibilité à ces personnes de pouvoir s'exprimer dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles veulent donner, dans ce qu'elles peuvent donner. Il y a des personnes qui peuvent donner, mais il y a tellement d'hermétisme généré en ville entre et les appartements. Donc il ne se passe rien dans les appartements, tout le vice c'est les zonards, tout le vice c'est les racailles, tout le vice est incarné dans ces personnes qu'on voit faire, mais il se passe exactement pareil dans les appartements, les nanas elles sont tapées, les gens ils sont alcooliques, c'est la même chose. Il faut arrêter cette hypocrisie de penser que les problèmes sont que dans la rue et jamais chez nous, et surtout chez les autres. Donc ça veut dire s'assumer soi, ça veut dire donner de l'énergie. Et moi de l'énergie j'en ai à donner, et puis ici je peux bricoler, si on me vire d'ici, je vais à 500 mètres, 1 km, 1 km et demi, je refais exactement la même chose. On m'enlève tout, je refais autre chose. Et on revient à ce point-là dans un an plus tard, deux ans. C'est sur le long terme. Moi, j'ai fini de payer un appartement pour du vide, pour des actionnaires, quoi, ou des gens que je connais pas, quoi. Voilà.
Comment t'appellerais ce lieu ?
La baie pirate.
Comment ?
La baie pirate.